Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
La passion française pour l'apéritif, plus connue sous son petit nom affectueux et tout en rondeur d'apéro, qui ne désigne pas une boisson, mais un temps de partage, quasi de communion, un moment qui se trouve toujours quelque part qualifié de convivial. L'engouement donc pour l'apéro cache sous sa bonne humeur une manière socialement acceptable de consommer beaucoup d'alcool en dehors des repas, au milieu de la journée, dans l'après-midi. En 2014, la France était encore un des plus gros buveurs d'alcool au monde, du moins au sein des 34 pays de la zone OCDE. Elle est simplement devancée par l'Estonie et l'Autriche. La consommation est certes en baisse depuis une vingtaine d'années, mais elle reste ancrée dans la culture française, quelque part nichée dans son identité, valorisée par sa poésie, sa littérature et pas la pire. Boire un coup est une expression de joie, de santé presque, de virilité souvent, un impératif catégorique de la vie sociale, mais aussi professionnelle. Autrement dit, c'est une drogue sociale valorisée et banalisée. Au travail, la prise d'alcool est souvent corrélée à la pénibilité du travail. Ainsi, une étude de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé constate que dans le bâtiment, l'agriculture, la manutention, ainsi que dans les professions en rapport avec le public, on boit plus qu'ailleurs. Un décret, entré en vigueur en juillet 2014, vise bien à restreindre la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de travail, mais son application est laissée à la discrétion de l'employeur. Il lui permet surtout, s'il le souhaite, d'interdire l'alcool dans son règlement intérieur. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont trois histoires d'alcool ou de drogue au travail. Allez, ça s'arrose. Et c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Un reportage de Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai commencé à boire en entreprise de manière excessive sans me rendre compte que c'était excessif. Dès le départ de ma carrière, je démarre dans le BTP comme rédacteur juridique. Donc, on m'envoie dans les agences qui sont disséminées en France. Et là, et systématiquement, j'ai un déjeuner avec le chef d'agence et son équipe. Et en tant que juriste, eh bien, je participe au repas. Ça démarre toujours par un apéritif et puis il y a toujours un très bon vin parce que le chef d'agence est content de nous faire connaître le vin de son cru. Et donc moi, bêtement, pour m'intégrer dans une équipe d'hommes, je suis une femme et je me sens obligée de goûter à ce champagne, à ce vin. Il se fait également que je suis timide par nature. Et donc, voilà, à 24-25 ans, je commence à boire. Le vin et l'alcool désinhibent et vous donnent du plaisir. En plus, c'était des vins de qualité. Donc, je me sentais d'ailleurs appartenir au groupe d'hommes, au groupe de BTP. Et j'étais bien, j'avais beaucoup parlé, sans doute parfois à tort, parce que le vin vous fait dire aussi des choses que vous ne devriez pas dire. Or, j'avais un métier qui touche la confidentialité en tant que juriste. Je crois que là, de temps en temps, je dérapais, mais le vin me permettait d'être admise et de me sentir appartenir au clan professionnel. Ces repas d'affaires, c'était le midi, mais après, il y avait le pot de départ. Donc à 17h après la réunion, eh bien, dans la marge, je me souviens que systématiquement, on ouvrait une bouteille de champagne, voire deux. Si en plus je restais le soir à l'hôtel parce que le lendemain, il y avait une expertise judiciaire et ça rentrait dans le cadre de mon travail, eh bien là, c'était le dîner, le bon repas dans un restaurant. Et là, là c'était plusieurs bouteilles. Bien sûr, j'étais pas toute seule à boire. Je me souviens pas avoir vu une personne qui dit « non, je bois pas » ou alors j'en ai vu une ou deux sur toute ma carrière. On est dans un milieu professionnel, dans certains secteurs, et c'est toujours les mêmes, le BTP, la restauration, l'agriculture, la pêche, ces trois secteurs, on a tendance à appuyer trop fort sur l'alcool. Quels ont été pour moi les moments dans ma carrière où j'ai vraiment commencé à boire et à déraper? Eh bien, c'est très net. D'abord, la gestion de la carrière, qui était pour moi très stressante, parce que j'étais ambitieuse. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais tant que j'avais mon mari à mes côtés, tout allait bien. Or, j'ai 35 ans et là, mon mari va décéder de manière dramatique et très rapidement. Au lieu de bien gérer mon deuil, je vais me jeter tête baissée dans le boulot et donc dans l'alcool, puisque l'alcool était à portée de main. Et là, je suis ambitieuse, donc je veux grimper les échelons, je les grimpe, mais avec beaucoup de stress au fond de moi, avec des postes qui me convenaient pas forcément, parce qu'il y avait beaucoup de relations publiques et j'ai horreur de ça. Donc pour me mettre à l'aise, eh bien j'ai commencé à boire, pour calmer mon stress intérieur. Après, eh bien, il fallait rendre des résultats, et là, ça me stressait d'autant plus. Donc, je buvais. Et ensuite, eh bien, je me suis retrouvée dans des réunions où l'alcool est un vrai outil de management. C'est-à-dire pour retenir les cadres supérieurs que l'on était le soir, et donc empiéter finalement sur leur vie privée, eh bien, on vous retient avec des bons gueuletons et du bon vin. Et c'est là où la ligne entre la vie professionnelle et la vie privée s'estompe, n'existe plus. Et eh bien, pour faire passer le temps, parfois l'ennui, à ces réunions, eh bien, je bois. Pour oublier. Là où j'ai commencé à m'inquiéter, c'est lorsque je me suis rendu compte que dans le cadre professionnel, je commençais à déraper. Et ça commençait à jaser autour de moi. On disait, dis donc, Madame Côté, elle est compétente, elle est sympa, elle travaille bien, mais elle a une bonne descente. Et ça, tôt ou tard, ça vous revient. J'étais droguée, tout simplement. J'étais dans la dépendance, à la fois physique, donc mon corps réclamait ma dose d'alcool, mais également psychique, puisque j'avais besoin de ce désinhibateur pour être à l'aise. Donc comment je le gérais ? Eh bien, en public, donc dans les pots et dans les repas d'affaires, j'essayais de stabiliser ma consommation, de la maîtriser. Donc j'arrêtais à 3 coupes de champagne et 5 verres de vin, je tenais la route. Après j'arrêtais, j'essayais de me jeter sur l'eau pétillante et je partais avant tout le monde. Alors, j'étais très consciente de mon état, donc je repartais pas avec ma voiture de fonction, mais je commandais un taxi, je me faisais déposer chez moi, c'est-à-dire que s'il fallait, j'annulais des réunions, ou je trouvais des prétextes pour ne pas y aller parce que j'étais consciente que je n'étais plus en état pour y aller, j'arrivais chez moi et je continuais seule. Et c'est vrai qu'à la fin, être alcoolique, c'est une maladie solitaire. Vous continuez à boire seul, tellement vous avez honte de ce que vous êtes devenu, vous n'êtes plus du tout dans le déni, mais par contre, vous êtes dans la honte de gérer la situation et vous êtes tout simplement désespéré. Je ne prenais malheureusement pas que de l'alcool, j'étais malheureusement devenu un cocktail de drogue. Et ça commence très simplement très tôt le matin avec un expresso, sauf qu'à la fin de la journée vous en avez 10 dans le corps. Vous rajoutez des excitants comme des vitamines C. À cela, j'étais aussi bourré de psychotropes, Xanax le matin, le soir, et du Lexonil pour dormir, mais tout ça mélangé à l'alcool, hein. Et après, dans les fêtes professionnelles, je dois reconnaître que lorsqu'il y avait des sniffs de coke qui se baladaient, eh bien, je les respirais. Voilà. Donc, c'est un cocktail explosif. Vous ne gérez plus rien. Vous êtes tout simplement malade de drogue. J'ai réalisé cette situation dans des conditions dramatiques, alors que tout le monde savait que j'étais alcoolique. Et je pensais que personne ne le savait, mais tout le monde le savait, y compris le DRH, qui avait son bureau à 3 mètres du mien. Et je me suis rendu compte que c'était devenu catastrophique, voire irrattrapable. Le jour, et ce jour est gravé dans ma mémoire, c'est le 24 janvier 2009, à midi et demi, où je vais m'effondrer ivre morte à la cérémonie des vœux du groupe dans lequel j'appartenais. Nous étions 654 cadres supérieurs réunis autour du grand président. Et là, alors que j'avais demandé de ne pas me tendre une coupe de champagne, malheureusement, vous avez toujours quelqu'un qui le fera. Or, au stade de la maladie qui était le mien, une coupe, c'est pas suffisant, il vous faut deux bouteilles, et c'est ce qui s'est produit. Et je me suis donc effondrée, et je suis restée plusieurs minutes par terre. Et là, je touche le fond, je perds tout, ma dignité de femme, mon travail, mes amis, tout va aller très vite. Je perds tout, sauf la vie, sauf que je ne veux plus de cette vie-là. Alors comment au travail, tout le monde savait ? C'est simple, c'est qu'arrivé à un certain stade de la maladie, votre corps n'en peut plus, et votre psychique non plus d'ailleurs, mais surtout le corps. Le corps est marqué par les effets des drogues et surtout de l'alcool. Et pour la femme que j'étais, ça se traduisait en un visage bouffi, cerné, les yeux couperosés, les mains tremblaient, j'avais 15 kilos de plus que maintenant. Voilà, donc l'image que je donnais n'était plus présentable. Ensuite, le comportement, mon craving, ce que l'on appelle le craving, c'est-à-dire cette envie irrépressible de boire, chez moi, était toujours vers 17h, c'est-à-dire que jusqu'à 17h, j'avais encore la dose de l'alcool de la veille, mais à partir de 17h, j'étais en manque, j'étais en craving. Et là, eh bien, je disparaissais de mon bureau d'une réunion, si j'étais en réunion, et je picolais. J'avais toujours une flasque d'alcool fort, c'était de la vodka mélangée à du jus d'orange, et j'en prenais 3-4 gorgées pour apaiser ce manque. Et donc le corps redevient à ce moment-là plus calme, et je revenais à la réunion. Bien sûr, tout le monde sentait que je respirais l'alcool, mais personne ne m'a rien dit. J'adorais mon métier. J'ai toujours eu une passion pour le travail. J'ai eu une belle carrière. J'ai terminé cadre supérieur comme directeur des risques, quoique je suis tombée au plus bas de l'échelle des risques. J'ai pas de regrets. J'ai parcouru le monde également. J'ai picolé dans les avions, dans la classe affaires, dans les hôtels, dans les mini-bars, etc. Il n'empêche que ma chute est fracassante. Moi, je m'estime d'ailleurs guérie. J'ai réussi à me reconstruire au bout de 5 ans et la jeune génération de cadres voit de plus en plus, et notamment de plus en plus de femmes. Et j'insiste aussi, toutes les strates d'une société sont touchées, les cadres supérieurs comme les personnes dans les ateliers.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai commencé il y a 10 ans la cocaïne dans la restauration parce que je faisais des heures énormes. Et puis ça m'arrive aussi encore quelques fois maintenant d'en prendre pour mon boulot parce que j'en ai besoin. Je suis serveur, je commence à 16h, je termine à 2h30, 3h du matin. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Et puis voilà, il faut tenir le coup. Il y a des heures creuses où il y a personne, et puis il y a des moments où je peux avoir des coups de bourre, où j'ai besoin d'aller vite faire un petit tour dans les toilettes et me prendre ma petite trace et revenir plein pot pendant 3h et non-stop pour mon travail. Quand on a une terrasse avec 120 personnes qui arrivent en même temps, on est deux serveurs, il faut prendre les commandes, servir, addition, et la terrasse, une super grande terrasse, il faut quand même assurer. Il faut servir les entrées, les plats, les desserts. Après, il y a la limonade, ce qui veut dire que les gens qui viennent boire un verre, après, il faut débarrasser les tables. Après la fin du service, il faut rentrer une terrasse de 120 chaises à 3h du matin. Et ensuite, il faut savoir que dans la restauration, les gens croient qu'on ferme direct Mais il y a au moins 2 heures de ménage après. Il y a la cave à faire, compter sa caisse, rendre sa caisse juste, tout. Et ça nous fait terminer 3h30, 4h du matin. C'est quand même des grands services qu'on fait. Et voilà, dans le métier à Paris, dans la restauration, on a besoin de ça pour tenir le coup. Je pense qu'il y a deux de mes employeurs qui ont su que je prenais de la cocaïne, mais qui m'ont laissé faire parce que c'était pas une phase, j'en abusais pas. Et puis généralement, les gens qui prennent la cocaïne suivent sur la boisson, et moi je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de boire en fait avec la cocaïne. Mais je sais qu'il y a des patrons qui ont su et qui m'ont spécialement rien dit. Qui ont été discrets, qui ont été compréhensifs, parce que dans mon boulot, je le faisais correctement aussi. Je fais attention à ce que je fais et j'aime ce boulot-là. C'est quelque chose qui me permet de faire mon boulot au carré. C'est marrant parce que ça me permet de ne rien oublier, de savoir quelle table a fini, quelle table a besoin de se faire suivre son plat, qui n'a pas eu son dessert, qui n'a pas eu son vin. Et ça me permet d'être concentré, en fait. Voilà. En dehors de mon boulot, je suis quelqu'un qui rase les murs. Et puis quand je prends de la cocaïne au travail, ça me permet de multiplier en deux ou en trois de différentes personnes. Et ça me fait du bien. Sinon, généralement, je me cache. Sans cocaïne, je peux faire mon boulot. Bonjour, bonsoir et non-stop. Je ne m'arrêterai pas à parler avec les gens. Et je ne pourrais peut-être pas me présenter moi-même, à être sous un bon œil pour les gens. Voilà. Ça fait longtemps que je fais ce boulot-là. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Rendre service, faire plaisir aux gens, donner à manger. C'est un boulot où on rencontre des gens différents, de toute culture, âgés, jeunes. Et sans qu'ils sachent, j'ai pris mon petit trait de cocaïne et j'ai fait sourire autant une personne âgée et autant un jeune, j'ai pu avoir un smooth avec lui. C'est vrai que je veux être le meilleur serveur, je veux être le plus attentif de tous les serveurs, ne rien louper. Et voilà, c'est vrai que ça me permet d'être positif dans ce boulot-là et de rendre service à tout le monde. Je pense que dans tout Paris, on est quand même pas mal à employer cette petite potion magique pour aller plus vite, pour se faire du bien. Mais je ne l'achète pas tout le temps. Ça coûte quand même assez cher. C'est quand même 70€ le gramme. Ce qui me permet d'en prendre de temps en temps dans mon service, c'est par rapport aux tips que je mets de côté. Les tips qui veut dire le pourboire. Et le pourboire, c'est vrai que je suis content quand j'ai un 10€, 20€, je mets ça de côté. Je sais que pour le week-end, je peux m'acheter mon petit gramme pour mon petit week-end, pour le vendredi et le samedi. Je fume de temps en temps des pétards, mais juste à la maison. Jamais dans mon boulot, parce que c'est quelque chose qui ne me va pas. De fumer un pétard, ça veut dire là, j'oublie tout. Je fume un pétard, j'oublie tout. Tout le contraire de la cocaïne. Cocaïne, je n'oublie rien, je suis structuré dans mon travail, mais un pétard, j'oublie tout. Et l'alcool également, je ne bois pas d'alcool, à part quand on m'offre un petit verre de temps en temps. Ça me permet d'avoir la gorge un peu moins sèche, mais sinon, non, je ne bois pas. Je prends que de la cocaïne au travail. J'ai pété une fois un plomb avec une dame qui m'avait mal parlé. Et c'était au moment où je sortais des toilettes. Et 5 minutes après, je crois que j'ai eu la montée. Je crois qu'elle m'a fait un claquement de doigts. Et ce claquement de doigts m'a fait péter un plomb. Et je me suis senti, mais après, ridicule d'avoir réagi comme ça. Mais je pense que c'était par rapport à la cocaïne. Mais sinon, je suis quelqu'un qui sait gérer normalement. Mais là, cette fois-là, je me suis vraiment excité tout seul. Et elle a pas mal pris. Elle a compris que j'avais un petit moment d'égarement et que j'étais en stress, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je pense qu'elle n'avait pas associé que j'avais pris de la cocaïne avant. Mais elle avait vu que j'avais eu un moment de perte dans mon service. Je connais assez beaucoup de personnes dans la restauration qui prennent cette substance-là, la cocaïne, qui sont serveurs comme moi, qui sont maîtres d'hôtel et qui prennent dans ce boulot-là parce que c'est un métier très 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 dur. Généralement, on n'a jamais le temps de manger. C'est un coupe-faim, ça permet de couper la faim aussi. Ça veut dire qu'on s'oublie aussi un peu, mais oui, dans ce métier-là, dans la restauration, il faut prendre de la cocaïne et c'est vrai. Oui. Le jour où je voudrais plus en prendre, j'en prendrai plus. C'est quelque chose, en fait, je suis pas addict. Si pendant 3 semaines j'en ai pas, mais même dans mon travail, ça se ressent. Je suis quand même un peu plus lent, un peu moins attentif aussi. Mais si un jour je m'arrêterai, oui, tout à fait, je m'arrêterai un jour de prendre cette cocaïne, bien sûr. Parce qu'après, je sais qu'à un moment, je vais avoir bientôt la quarantaine, le corps ne suivra plus aussi. Il faut être quand même raisonnable. J'ai plus 20 ans.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ça fait 23 ans que je travaille dans le bâtiment, donc dans la menuiserie aluminium, PVC. J'ai commencé, j'étais tout seul avec mon patron. J'avais 20 ans. Et puis on buvait pratiquement l'apéro tous les soirs, au travail, avec mon patron. Donc voilà, là je buvais, mais c'était festif. À la maison, je buvais pas. C'est allé mes crescendo, disons que c'était... Au début, c'était un apéritif tous les soirs. Deux ou trois mois après, voilà, on buvait deux ou trois pastis. Après, c'était, voilà, après, ben tiens, on va en boire un coup, on va boire après au bar, ou tu passes à la maison. Bon, je travaille dans un atelier, et voilà, on reçoit des barres de 6,50 m de long, qu'on décharge du camion manuellement. Et après, ces grandes barres, il faut les couper avec une grosse tronçonneuse, qu'il faut mettre sur la machine, et après, ça passe dans des poinçonneuses, donc, et puis tout ce qui est vitrage. Donc, on transporte le vitrage, on vitre les fenêtres, donc voilà. Je me suis vraiment mis à boire quand j'étais tout seul à l'atelier, en fait. Pendant un moment, j'étais à la pause, ça allait très bien, parce que j'étais occupé. Mais du moment où je suis resté à l'atelier, seul, ben voilà, on commence à penser aux problèmes qu'on a à côté, qu'on doit régler le soir. C'est ce que en pause, ça ne se posait pas la question, parce qu'on faisait beaucoup le particulier. Donc on discutait avec le particulier, il y avait un contact, parce qu'à l'atelier, j'étais tout seul. Et les derniers temps, je disais à mon patron, j'ai dit, Jacques, il me faut quelqu'un à côté de moi pour me... Parce qu'il savait que j'étais sous antidépresseur, que j'avais du mal à me concentrer. Mais c'est pas pour ça qu'il a fait un effort à me mettre quelqu'un. Donc j'étais responsable de deux équipes de pause, plus la fabrication, toutes les livraisons, prise de mesure. Donc je commençais à avoir un peu plus de responsabilités. Donc là, le soir, je rentrais chez moi et je commençais à boire tout seul. Bien sûr, en cachette. Donc j'allais acheter un cubi de vin, et puis bon, j'en buvais 2-3 litres par jour. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'en ai amené 1 litre à l'atelier. Et là, ça fait maintenant 15 ans que je buvais beaucoup. C'est-à-dire le matin, je me levais, je buvais du blanc. Je buvais jusqu'à 6 litres de vin par jour. Donc voilà. Enfin, les derniers temps, j'étais jamais à jeun, quoi. Et le soir, à partir de 17h, je rentrais chez moi, et là, c'était jusqu'au coucher, je consommais. Donc, jusqu'à 6 litres de vin par jour, j'étais. Et jusqu'au jour où mon patron, j'ai appris qu'il me faisait surveiller par un collègue. Et puis, il a vu que dans la voiture, parce que j'avais une voiture de fonction, donc il a vu dans la voiture qu'il y avait un cubi de vin. Il me dit, écoute, Fabrice, il me dit, là, ça suffit maintenant. Donc, il m'a enlevé la voiture de fonction. Il m'a ramené chez moi. Chez moi, ben, je lui dis, ben, rentre boire un café. De toute façon, il y avait ma femme, parce que, bon, je suis en couple. J'ai deux enfants. Ma femme a pris le téléphone, elle a téléphoné directement au médecin. Et mon généraliste a dit, bah, écoutez, c'est pas à moi à prendre la décision, mais ça serait bien que vous fassiez une cure. Donc j'ai pris la décision de rentrer à l'hôpital, à l'US2A à Valence. J'ai fait une cure de 5 semaines. Et bon, mon patron, avant de partir, m'a dit, Fabrice, soigne-toi bien. Je veux que tu reviennes dans de bonnes conditions. Je suis resté 3 mois en maladie. J'ai repris le travail. J'ai rechuté 6 mois après, la veille de Noël. Pardon. Voilà. Et puis, mais petit à petit, c'est-à-dire que je dis, Fabrice, tu vas acheter une bouteille, ça va pas te faire de mal. Et puis, la bouteille ne suffisait plus. 2, 3. Après, j'ai acheté le cubi. Et donc, là, j'étais à 5 litres par jour, sûr. Et après, ça ne me suffisait pas. J'étais sous antidépresseur, Atarax, plus caché pour dormir, plus l'alcool, plus les 5 litres de... Voilà, donc, j'étais bien. C'est le petit nuage. Donc, il y a un an, en septembre, j'ai décidé de me reprendre en main, quoi. Parce que j'ai vu que je replongeais. Et là, donc, j'ai décidé de faire 9 semaines. Deuxième cure, voilà. Donc après, je suis sorti de l'hôpital, bien fatigué, parce que ça fatigue énormément de se sevrer comme de rester sevré. Donc j'étais très fatigué. Puis après, bon, la semaine avant Noël, je décide d'aller voir mon patron. J'ai eu aucune nouvelle, même de mes collègues de boulot. Personne ne m'appelait. Aucune nouvelle de mes copains de travail. Voilà. Ça fait un an. Donc, pour Noël l'année passée, je décide d'aller voir mon patron la semaine avant Noël. Et là, il m'apprend qu'il voulait se séparer de moi, qu'il voulait me licencier. Alors, j'ai dit, écoute, Jacques, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble. J'ai dit, là, je fais tout pour me soigner. J'ai fait 2 mois d'hôpital. Je me fais suivre par un alcoologue. Et je vais chez MC encore toutes les 3 semaines. Donc, à part ça, je sais pas quoi faire d'autre. Il me dit, non, mais j'ai décidé, de toute façon, je peux plus travailler avec toi. Je veux plus. Alors, je suis rentré chez moi. C'est la semaine avant Noël. Je suis rentré chez moi. J'étais complètement... Ma femme travaillait. J'étais à 2 doigts de reboire. Et là, il y avait mon fils à la maison, qui a 15 ans. Et je crois qu'il n'y aurait pas eu mon fils. Je crois que je replongeais sur... Déjà, le matin de Noël, j'ai appris ma mère qui me téléphone, dit « Voilà, t'as un oncle qui est décédé d'une cirrhose. » Ça m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est mon oncle, mais ça m'a fait réfléchir 2 fois plus, quoi. Dit « Fabrice, tu veux pas décéder d'une cirrhose, c'est pas possible. » Donc, je m'en suis servi pour me consolider, quoi. Et voilà, donc là, je suis toujours arrêté, donc ça va faire... Et ça fait un an que j'ai pas touché une goutte d'alcool. Voilà. She said she wouldn't stay. Turned her eyes away. She left with my tomorrow. Thought she gave her heart to me. Now it's plain to see it was just.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, alcool et drogue au travail, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Delphine Lemaire, avec un coup de main de Marie Placet, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, avec en ce moment Philippine Lebray, notre stagiaire. Commentaires, réactions, suggestions, franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre, évidemment. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et autres Twitter. Vous pouvez partager nos émissions si elles vous ont intéressé. Enfin, je suppose que vous connaissez le mode d'emploi. Voilà, en attendant de vous retrouver sur d'autres réseaux. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. Restez sur notre chaîne, il n'y a pas que les pieds sur terre.